Nous qui sommes sans passé les femmes, nous qui n'avons pas d'histoire, nous qui sommes sans passé les femmes, nous qui n'avons pas d'histoire.
Nos que non temos pasado, mulleres, nos que non temos historia. Logo da noite dos tempos, mulleres, nos continente negro. Ergámonos, mulleres, rachemos as barreiras en pé. Mujeres trafegadas, violadas, dentro de todas las casas, mujeres do mundo illadas. Ergámonos, mujeres, rachemos as barreiras en pé.
La révolution sera féministe sur Radio Galère. Aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler du féminisme populaire avec Bouchra Azouz et je vous ferai écouter une partie de son intervention à l'université d'automne de l'Assemblée des femmes auquel j'ai pu assister et j'ai pu la rencontrer. L'Assemblée des femmes dont Laurence Rossignol est la présidente. Et je vous ferai aussi écouter de nombreux extraits de son dernier documentaire, on les appelait beurettes. Alors Bouchra Azouz est fondatrice des ateliers du féminisme populaire, elle est réalisatrice et essayiste. Elle a été secrétaire générale de Ni pute ni soumise de 2007 à 2009. Et à travers ses écrits, elle interroge la question de l'identité, l'intégration, la citoyenneté, autant que des luttes systémiques pour l'égalité et l'émancipation des femmes. Bouchra Azouz est née à Saint-Denis et a grandi à Bobigny au début des années 70. Elle est la troisième d'une fratrie de 10 enfants. Elle endosse très jeune la fonction d'adjoint mère qui va forger depuis l'enfance à la fois sa curiosité au monde et plus particulièrement à la condition des femmes immigrées. Cette prise de conscience qu'être femme est une épreuve de tous les jours va structurer avec les années une approche empirique du féminisme qui deviendra à force de lutte et de réflexion le féminisme populaire. Elle fonde les ateliers du féminisme populaire, elle est engagée auprès des femmes des quartiers populaires, convaincue qu'elles sont un vecteur puissant de la transformation des quartiers, mais aussi porteuse d'un féminisme d'urgence, un féminisme à l'arrache, pragmatique et solidaire. Pour en faire la démonstration, elle a écrit plusieurs documentaires. Le premier qu'elle a co-réalisé avec Marion Stalins s'intitulait « Nos mères, nos daronnes » et revenait sur l'histoire de sa mère et des amis de sa mère de son quartier de Bobigny. C'était un témoignage d'une grande force, d'une grande sincérité, résolument optimiste, qui montre que les femmes sont la grande chance des quartiers populaires contre le radicalisme et le terrorisme. Son deuxième documentaire, dont je vais vous passer de nombreux extraits, s'intitule « On les appelait beurettes ». C'est le portrait de la première génération de femmes d'origine maghrébine, dont elle fait partie, qui sont nées en France, qui donc aujourd'hui ont une cinquantaine d'années. Elle prolonge son analyse des quartiers et poursuit sa relecture féministe de l'histoire. Aborder l'immigration par un nouveau prisme, celui du féminisme, c'est une démarche inédite. Elle dit « Il s'agit de rompre avec l'imaginaire ayant enfermé sa mère et toutes ses femmes immigrées dans une forme de soumission, de docilité culturelle ou religieuse. » Elle revendique l'héritage féministe qui lui vient de sa mère et de toutes ces femmes de son quartier qu'elle a vues se battre au quotidien pour arracher leur liberté. Il y a bien un féminisme qui ne dit pas son nom, un féminisme populaire, le féminisme de ces femmes invisibles qu'elle a voulu donc montrer dans ses documentaires comme des héroïnes du quotidien. Elle est aussi co-auteure avec Corinne Lepage d'un livre qui s'intitule « Les femmes au secours de la République de l'Europe et de la planète » qui est paru aux éditions Max Milo en 2015. Donc je vous fais d'abord écouter son intervention à l'université d'automne de l'Assemblée des femmes, où elle vous expliquera comment elle est devenue féministe et ce que c'est que ce féminisme populaire.
Et Bouchra nous parlera aussi de son combat pour un féminisme populaire, un féminisme convergent et universel, laïque et humaniste, qui s'attaque à toutes les alliés, toutes les inégalités. À toi. C'est la nécessaire convergence des luttes. Hein. Et les masculinistes, ils sont à l'œuvre, j'ai envie de dire, depuis la nuit des temps. Puisqu'ils trouvent force aussi par rapport au combat féministe sur l'organisation à tous les niveaux de la société du patriarcat. Et on se rend bien compte que même si les lois avancent, même si le droit des femmes avance, hein, bah, il suffit, comme disait Simone de Beauvoir, d'une crise hein, pour que tout retombe à plat. Et c'est à ça qu'il faut être vigilant, je pense. Et c'est vrai que moi, de là où je suis, de là où j'écris, de là où je fais mes films, simplement une histoire personnelle. Et moi, je suis féministe en réalité depuis 2007, si je fais une datation carbone 14. Hein. 2007. Et jusque-là, en fait, moi, le féminisme, pour moi, c'était un sujet de blanche. Pourquoi c'est un sujet de blanche? Parce que, encore une fois, de là où je suis, les problématiques qui étaient les miennes n'entraient pas en résonance, en fait, avec les discours que j'entendais, si toutefois j'arrivais à les entendre, parce que j'avais d'autres préoccupations. Et je pense qu'en fait, c'est peut-être un peu choquant ce que je dis, mais c'est une réalité, je pense que c'est une réalité dont il faut avoir conscience. Hein. Parce que, effectivement, moi j'appartiens à une génération, j'ai oublié même mon chronomètre, on va parler, donc vous me direz quand j'attends les 14 minutes. Oui, donc je disais que de là où je viens, de mon histoire, qui est l'histoire de cette première génération née après l'indépendance de l'Algérie, donc après la guerre d'Algérie, et qui va naître et grandir en France un peu de manière accidentelle, on va dire. Et du coup, on est, notre génération de femmes, on est en fait des femmes qui avons une problématique extrêmement complexe, qui va être à la fois de faire évoluer nos familles, qui vivent encore dans une manière d'être, d'un rapport à la France qui est un rapport de colonisé, et une société française qui considère nos pères, parce que nos pères sont des ouvriers, les mères, c'est juste les conjoints qui viennent dans le cadre du regroupement familial, et puis nous, on est un peu un accident d'histoire. Et pourquoi je vous dis ça? C'est parce qu'en fait, quand vous analysez tous les mouvements intersectionnels et racisés, eh bien, on néglige une chose, c'est que on est issu des classes populaires, mais on a eu de cesse de se construire uniquement sur la question ethnique, raciale et aujourd'hui religieuse. Et donc, ce que je dis souvent, enfin, cette formule un petit peu à la porte de pièce comme ça, mais qui a le mérite de frapper, c'est qu'en fait, on est un peu des prolos sans mode d'emploi. C'est-à-dire qu'on a bien conscience qu'on appartient à une classe populaire, mais on n'est pas outillé pour intégrer dans nos luttes et dans notre pensée, dans notre manière de se projeter dans la société, comme appartenant à un groupe social. Et les premières luttes qui ont concerné notre génération d'enfants issus d'immigration en France, c'était la marche des Beurs, la marche pour l'égalité contre le racisme. Et ça a été un élément fondateur et fondamental. Parce que, suite à ça, les quartiers populaires vont se construire décennie après décennie sur la question raciale. Et nous, les filles, on est un peu l'angle mort de tout ça. C'est-à-dire, comment vous pouvez imaginer qu'à un moment donné, on va se raccrocher au ballon du féminisme? C'est impossible. C'est presque impossible. Je pense qu'il faut intégrer qu'on ne peut pas être en force dans la lutte féministe si à un moment donné, on ne permet pas à ces milliers de femmes qui sont aujourd'hui dans les quartiers populaires, hein, d'avoir la possibilité d'une porte ou d'un chemin qui s'ouvre à elles pour comprendre qu'en fait on fait partie d'un tout. Et c'est là où le féminisme populaire, c'est un féminisme un peu comme ça à l'arrache, hein, parce que, comme je vous dis, moi je ne suis pas outillée, je ne connais pas sur le bout des doigts l'histoire de la lutte des femmes. Mais à un moment donné, j'ai une intuition et puis j'ai une expérience empirique de l'être femme dans les quartiers populaires, sur l'immigration, de culture arabo-musulmane. Voilà, je n'ai que cette expérience en grand-mère et avec laquelle j'avance à tâtons pour essayer de construire quelque chose. Et avec mon acolyte Warda Sandi, qui n'est pas là, mais qui aurait pu être avec moi, bah, on a commencé à penser ce féminisme populaire. Alors, le féminisme populaire, c'est quoi? C'est un féminisme, j'ai envie de dire, avec beaucoup de pincettes, parce qu'aujourd'hui les mots ont beaucoup de sens, hein. Mais on est quand même d'une certaine façon dans une forme d'intersectionnalité, mais dans une perspective républicaine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai une conscience aiguë du fait que, effectivement, le fait d'être une femme, je me rends bien compte, à mesure que j'avance dans ma vie, que ça a été un problème, être une femme issue de l'immigration, encore plus issue des classes populaires. On ajoute petit à petit des contraintes et des oppressions supplémentaires, avec aussi l'oppression religieuse, qui est un vrai sujet, que vous avez largement évoqué hier. Donc, bien sûr qu'on est dans une complexité, en fait, aujourd'hui, d'appréhender ces questions-là quand on est une jeune fille issue des quartiers populaires. Et pourquoi? Parce que la force du masculinisme fait que, revendiquer une forme d'émancipation, une forme de liberté sexuelle, je ne sais plus qui disait tout à l'heure, on a des injonctions contradictoires. Et les jeunes filles qu'on rencontre aujourd'hui n'ont absolument pas les problématiques que moi j'avais dans les années 90. On est encore, c'est un effet de génération qui s'ajoute à ça et qui fait que les gamines de 15, 20 ans, 25 ans, elles sont nées dans une société mondialisée où elles ont énormément de droits sans savoir d'où tout ça vient. Donc on a en plus affaire à des générations de ce que moi j'appelle des immémoraux. Et la mémoire, c'est quelque chose d'important. La transmission des luttes, c'est quelque chose d'important et à un moment donné, il faut une filiation. On ne peut pas simplement dire aujourd'hui au Dana, oui, tu vois, le voile, ça va pas, telle revendication, ça va pas, et puis un espèce de méli-mélo de lutte antiraciste, de pro-prostitution, mais elles sont complètement paumées, je veux dire, c'est un bordel impossible cette affaire-là. Il y a une espèce de convergence de lutte absolument contradictoire en plus les unes aux autres, et on demande à notre jeunesse, finalement, d'être presque au même niveau que nous ou que vous sur ces luttes-là.
Maintenant, je vais vous faire écouter des extraits de ce documentaire « On nous appelait Beurette ». Donc, c'est le portrait de la première génération de femmes d'origine maghrébine nées en France. On connaît bien leurs frères, médiatisés dans les années 80, mais elles, leur vie, leur bataille, des combats qui n'ont pas trouvé d'écho dans cette société pensée par et pour les hommes. Donc Bouchra a voulu restaurer cette mémoire au féminin à travers les témoignages de Mina, Aourdia et Dalila, qui sont ses amies, qui ont grandi dans le même quartier de Bobigny. Retracer l'histoire invisible de ces femmes, élevées à l'école de la République, mais qui ont dû se battre pour trouver une place comme citoyennes dans une France encore marquée par la guerre d'Algérie et comme femmes au sein de leur famille et de la société française. Je vous laisse écouter le premier extrait que j'ai choisi, que je pourrais intituler « Enfance ».
Cette petite fille, c'est moi, Bouchra, filmée en 1978. J'ai 10 ans. Mes parents viennent du Maroc, mais je suis née en banlieue parisienne. Je suis une beurette. En tout cas, c'est comme ça qu'on appelait les filles arabes dans les années 80. J'ai l'air d'une enfant comme les autres, et pourtant j'ai grandi sans savoir qui j'étais, écartelée entre deux mondes, deux cultures, deux histoires. Mais à force de combat, ma génération a su tracer son chemin, ouvrir une voie, trouver sa place en France. Aujourd'hui, face au repli communautaire et identitaire, il faut raconter notre histoire parce que le meilleur est toujours possible. Alors, il était une fois, toutes les histoires commencent comme ça. Mon histoire commence en banlieue parisienne, à Bobigny, avec la construction de ce qui deviendra ma cité. On ne se l'imagine pas aujourd'hui, mais à cette époque, tout le monde rêve d'un logement HLM. Les familles maghrébines qui habitent les bidonvilles et les familles françaises qui ont du mal à se loger. En 1969, mes parents emménagent Cité de l'Amitié, l'une des plus modernes de Bobigny. Elle offrait un cadre de vie exceptionnel pour les enfants. Un endroit a profondément marqué mon enfance, le centre de loisirs. Il était installé dans la cave du bâtiment 4. Tous les jours après l'école, j'y retrouvais mes amis. Michel, Carole, Dalila, Nathalie. Pour nous qui n'avions presque rien, le centre était une parenthèse enchantée. L'été, l'aventure se poursuivait et on partait tous ensemble pour un mois en colonie de vacances. La seule exigence de mes parents était que je ne mange pas de porc. Pour le reste, je vivais mes vacances comme tous mes amis, avec bonheur. Sans m'en rendre compte, j'apprenais là toutes ces petites choses qui font la culture populaire française. Les jeux, les chants, les comptines. Nos moniteurs voulaient transmettre à tous les enfants, qu'ils soient des classes moyennes ou des classes ouvrières, français ou d'origine étrangère, des valeurs communes. Toutes ces activités étaient organisées par une femme exceptionnelle, Madame d'Henry. Elle avait créé les premiers centres de loisirs dans les cités pour qu'aucun enfant ne soit livré à lui-même. Elle est aujourd'hui encore la mémoire vivante de notre quartier.
Il y avait une mixité de populations extraordinaire. Alors, on avait des gens de tous bords, des gens qui avaient des métiers complètement différents, et on avait des gens de pays complètement différents. À la cité, on voulait tous que les gens fassent la fête quand il fallait ensemble, se rencontrent. Parce que faire la fête, c'est une chose, mais se rencontrer, c'en est une autre. On se retrouvait pour faire un loto, pour faire de la musique, pour faire des réunions. Moi, je faisais la gymnastique pour les femmes. C'était quelque chose d'extraordinaire.
Mon moniteur préféré, c'était Bob. J'adorais sa coupe de cheveux. C'est lui qui poussait nos parents, qui vivaient pour la première fois au milieu des familles françaises, à participer aux activités collectives.
Il y a une expression qu'on n'utilisait pas à l'époque, parce que ça ne voulait rien dire, le vivre ensemble. À cette époque-là, on le faisait un peu comme M. Jourdain faisait de la prose sans le savoir. Nous, on faisait du vivre ensemble. Enfin, on faisait, pas tout seul, avec les autres.
Ce vivre ensemble dont parle Bob n'était pas le fruit du hasard. Dans nos banlieues rouges, la cité incarne un idéal de vie où toutes les cultures, toutes les classes sociales cohabitent. Mais au milieu des années 70, avec la crise économique, la vie dans la cité va commencer à changer. Je me souviens précisément du jour où nos moniteurs, Madame d'Henry en tête, ont organisé une manifestation pour défendre les centres de loisirs. On est parti en file indienne avec nos parents vers la préfecture de Bobigny, entonnant les chants appris en colonie de vacances. C'était ma toute première manif. malgré tous nos efforts, les activités dédiées aux enfants dans la cité vont peu à peu disparaître, jusqu'à la fermeture définitive de notre centre de loisirs. Mais ce qui va vraiment changer le visage de la cité, c'est le départ des familles françaises, et donc de mes amis, Carole, Christine, Nathalie. Face à la crise, le président Giscard d'Estaing donne un coup d'arrêt au financement du logement social. En 1977, il met en place des dispositifs pour encourager l'accès à la propriété des classes moyennes. C'est la naissance des banlieues pavillonnaires. Les cités, conçues à l'origine pour être des lieux de mixité sociale et culturelle, deviennent en quelques années des ghettos pour les familles modestes et pour les immigrés en particulier. Mais la crise économique va avoir une autre conséquence pour les familles maghrébines.
Par rapport aux 15 années de croissance rapide du passé, nous changeons d'époque. Et nous menons une politique pour accompagner la diminution de la main-d'œuvre étrangère en France en étendant l'aide au retour à 1 million de travailleurs immigrés à partir du 1er octobre.
Le père d'une de mes camarades de classe, Latifa, accepte l'aide au retour de 10 000 francs pour retourner vivre en Algérie avec femme et enfants. Je réalise alors que la France n'est pas mon pays et qu'un jour peut-être je devrais partir vers un ailleurs que je ne connais pas. Cette même année, des cours d'arabe sont organisés à la va-vite à l'école pour tous les petits maghrébins. Pour la première fois, je suis séparée de mes camarades français, comme s'il y avait deux groupes, eux et nous.
Alors avant de vous passer le deuxième extrait que j'ai appelé « Adolescence », je voulais vous dire que je dis merci aussi à Bouchra pour ce documentaire qui m'a appris aussi beaucoup sur la mémoire, les luttes des filles et des femmes des quartiers, puisque j'ignorais, et j'avoue mon ignorance, quelque chose qui m'a semblé incroyable, et pourtant, en vérifiant, c'est vrai, incroyable mais vrai, le fait que, jusqu'en 2005, en France, l'âge minimum légal pour autoriser le mariage des jeunes femmes était de 15 ans. Il est passé à 18 ans seulement en 2005. Cela signifie que depuis le Code civil napoléonien, en vigueur depuis 1804, l'âge minimum du mariage était de 18 ans révolus pour les hommes, mais de 15 ans plus pour les femmes, donc 3 ans plus jeunes, 15 ans pour les femmes. Et je remercie Bouchra de m'avoir appris cela, et surtout appris qu'il y a eu un événement fondateur dans la lutte des cette fois des filles, puisque dans son intervention à l'Assemblée des femmes, elle a parlé d'un événement fondateur pour les enfants de l'immigration, c'est-à-dire la marche des beurs, mais qui ne concernait pas spécifiquement les filles. Il y a eu, et je vous passerai l'extrait qui le concerne, un événement fondateur, c'est-à-dire une marche des femmes des quartiers pour l'égalité et contre les ghettos, qui a permis justement de changer et de faire passer l'âge minimum légal du mariage pour les filles en France de 15 à 18 ans, puisque, comme vous le verrez dans l'extrait que je vais vous passer sur l'adolescence, dans les années 80, puisque ce mariage était autorisé pour les filles à 15 ans, eh bien les filles maghrébines étaient particulièrement vulnérables, et comme vous le verrez, beaucoup de ses amis ont dû se marier, puisque dans la culture des mères maghrébines, il était de la responsabilité des mères, c'était l'aboutissement d'une éducation dès l'enfance. Donc cela m'a beaucoup frappée. Donc avant de passer à l'adolescence, en fait, juste vous dire qu'à 10 ans, Bouchra a quitté l'école communale pour l'école catholique, où elle a rejoint la plupart de ses amis. C'est une école qui rassurait ses parents, puisque c'était une école non mixte. Et en fin CM2, elle a pu aller en classe verte. Et puis, comme ça a été... elle a presque failli pas y aller. parce qu'à 11 ans, sa mère la considérait déjà comme une femme et elle était l'aînée, elle devait s'occuper de ses 7 frères et sœurs. Mais son institutrice a bataillé pour qu'elle suive la colonie en Bretagne, la colonie verte. Et là, loin de ses responsabilités, Bouchra a réalisé que ses amis de classe vivaient une insouciance qui était inconnue pour elle. Voilà, donc je vous laisse écouter le passage à l'adolescence où là commenceront les problèmes pour les jeunes filles. Je vous laisse écouter.
Nos parents ne nous laisseront plus jamais repartir en voyage scolaire.
Pourquoi cette protection? Pourquoi ne pas nous avoir laissé sortir? Pourquoi avoir eu autant peur pour nous? Je pense que c'est par rapport à leurs principes de vie. Je veux dire, en Algérie, ma mère, elle ne sortait pas. Pour elle, bon, bah, les garçons pouvaient sortir, avaient une liberté immense, que nous, les filles, non. C'était bon encore pour eux, pour ma mère, bon, bah, tu vas suivre des études et tout, ça va t'aider dans le futur. Mais tout en étant, elle, dans son image, dans sa vision des choses, c'est que ma fille, mes filles vont se marier, avoir un petit travail, c'est tout point.
Alors que nos amies françaises entrent dans l'adolescence avec légèreté, pour nous commencent les problèmes. Nos familles craignent le déshonneur et nos vies vont peu à peu basculer. Beaucoup de mes amies maghrébines sont contraintes par leurs parents d'arrêter leurs études. Au mieux, elles sont orientées en filière professionnelle pour apprendre rapidement un métier. Moi, j'ai la chance d'avoir une mère qui me pousse jusqu'au bac. Nos parents redoutent par-dessus tout qu'on vive comme les jeunes françaises, qu'on se maquille, qu'on fume, ou pire, qu'on sorte avec des garçons. Cette crainte de voir les filles s'éloigner du mode de vie traditionnel pousse les familles à les surveiller comme le lait sur le feu, et peu à peu, à les priver de liberté.
Vous l'aidez, Mima ?
Une logique qui va conduire à des drames dans de nombreuses familles. C'est ce qui est arrivé chez mon amie Wardia. Dans l'appartement que sa mère habite depuis près de 50 ans à la Cité de l'Amitié, elle retrouve sa grande sœur, Chaba.
Moi, je trouve que c'est osé ce qu'elle a fait, ma sœur. J'aurais pas pu faire ce qu'elle a fait. Pourtant, on a subi. Mais fuguer comme t'as fait partir, ne pas revenir le soir, au moment qu'il pleurait, j'aurais pas pu.
Ah, mon papa était très très dur. École, maison, ne sortais pas, t'avais pas droit le week-end, t'avais pas droit d'emmener des copines, t'avais pas droit de faire un anniversaire. Nous, c'était rien. Maman, elle défendait, tu vois, elle défend les enfants, elle était les mamans. Je pouvais pas voir ma mère comme ça, elle subissait aussi. Je suis partie. Écoute, la nuit, voilà, ça m'a cogité dans ma tête. J'ai fait comme si j'allais à l'école et je suis pas revenue pendant 2 jours. Et la maman de ma copine m'a hébergée. La maman, elle a eu peur d'avoir des problèmes. Elle m'a emmenée au commissariat. Ils ont appelé mon père et ils ont fait la promesse de mon père de ne pas me toucher. Ils m'ont donné une petite carte avec un numéro. S'ils me touchaient, je les appelais, là. Le lendemain matin, ils m'ont ramenée en Algérie.
En Algérie, direct.
Direct. On a déchiré mon passeport au milieu de l'avion. L'avion, il a décollé. Il a dit, attends, tu ne reviens plus en France.
Pendant ce séjour forcé en Algérie, Chaba va se marier. Elle n'a que 15 ans.
Moi, franchement, j'étais heureuse de me marier.
Mais t'aurais pas préféré gagner ta liberté autrement que par le mariage?
J'aurais pas. Avec mon père? Comment ça, dis-moi? Je serais restée ici 15 ans, 16 ans, 17 ans, 18 ans. Il nous aura toujours serrés, c'est vrai, papa? Jusqu'au mariage, franchement, il faut dire la vérité. Il n'aurait jamais laissé sortir à 18 ans, 20 ans aussi. Hein. Jamais. Mais non. Il était très dur. Ah non.
Un an après sa sœur Chaba, Wardia choisit de se fiancer en Algérie avec l'un de ses cousins. Le mariage est célébré en France. Elle a 18 ans.
Ça représentait quoi pour toi le mariage ?
Ça représentait la vie, la liberté, le fait de partir chez ses parents et de faire un peu... de faire notre vie, quoi, d'être libre. Malheureusement, mon mari de l'époque m'avait dit « Ce serait bien que tu arrêtes tes études pour pouvoir travailler. » Et moi, ça m'a tout chamboulé, quoi. Pour moi, le fait de faire de la couture, d'avoir appris toutes ces choses, je me suis dit « Mais tiens, qu'est-ce que je vais faire ?» Je voulais continuer. J'aurais aimé faire mon bac pro, mon BTS, enfin aller au-delà et pourquoi pas enseigner dans cette discipline. Voilà.
Le mariage des filles relève de la responsabilité des mères, c'est même leur devoir. C'est l'aboutissement pour elles de toute une éducation qui commence dès l'enfance. Marier sa fille est une fierté, échouer à le faire est une honte. Les mariages sont le plus souvent arrangés par les mères et s'organisent dans les appartements. Un phénomène qui va paradoxalement prendre une ampleur nouvelle en 1981 avec l'élection de François Mitterrand.
Aujourd'hui, dans les préfectures, a débuté l'opération régularisation des travailleurs étrangers sans papier. Le but recherché étant avant tout de lutter contre les emplois clandestins et le travail au noir.
Cette politique généreuse va bouleverser le destin des filles des cités. La régularisation massive attire de nombreux garçons venus du bled. Pour eux, la seule façon d'obtenir des papiers est d'épouser une fille vivant en France. Soudainement, les demandes en mariage se multiplient.
N'importe qui pouvait frapper à la porte de n'importe qui et demander la main d'un tel. Et pour eux, c'était une offense s'il y avait le refus. Mais il n'y avait aucune sécurité dans ce truc-là. Parce que après, le mec il partait, la maman était tout heureuse, oh, ma fille, peut-être elle va se marier et tout. Ça venait après, il y avait un petit jour où il devait revenir pour une petite discussion, la fille et le garçon dans une chambre ou dans un truc, pour avoir un peu, se poser des questions, se connaître un peu, non, mais c'était vraiment du vite fait. Tu vois, quelque part, je ne suis pas une fille du bled, je suis une fille de France. J'ai accepté, j'ai accepté tellement que ma mère, elle a tellement écouté son voisinage. Je lui en ai voulu, hein, je lui avais dit, il n'y a pas longtemps je lui ai dit. C'est de ta faute. Elle en a pleuré. Elle en a pleuré. J'ai accepté de me marier avec une personne pour fermer toute la bouche du voisinage. Et finalement, quand je me suis mariée avec lui, on a fait un grand mariage. Ma mère qui a financé. Il a financé quoi, lui ? Il n'a rien financé. Le mec qui veut se marier, le mec n'a rien dans ses poches. Je suis restée 3 mois avec lui. Je lui ai dit, écoute, tu n'auras pas les papiers avec moi. Je ne t'aime pas, tu m'aimes pas, je ne te ferai jamais les papiers. Je ne suis pas la préfecture, je ne suis pas le truc, je ne te ferai jamais les papiers.
Mina est une de mes amies d'enfance. De nous toutes, c'est elle qui avait le plus de liberté pendant l'adolescence. Pourtant, elle sera mariée de force. Au début des années 80, le mariage des filles est autorisé en France dès l'âge de 15 ans, ce qui rend les filles maghrébines particulièrement vulnérables.
À l'époque, j'avais 17 ans et on ne m'a pas trop demandé mon avis. Le jour du mariage, je ne comprenais pas très bien la langue en fait. On m'a emmenée au consulat, on m'a dit bah, « il faut que tu signes, tu dis oui ». Et puis, ben, voilà, le gars, il n'avait pas de papier, il était moche. Mais, moi, ça a été violent, quoi. Donc, ça a été violent.
Et la nuit de noces ?
Ben, la nuit de noces, c'est sauf qui peut, quoi. J'ai pris des coups, J'ai été frappée, C'est un truc de fou, ça. Je parle maintenant que 30 ans après, quoi. C'est pas... Oh, c'est... Oh, c'était... Ils m'ont fermé, quoi. C'était... Ouais, c'était violent, quoi. C'était très violent. Donc, j'ai pas voulu. Donc, ensuite, bah, les insultes, ramenez-la chez sa mère... Rendez-la, enfin, une fille, elle n'est pas pure, et patati patata, et puis bah, les coups, les insultes. Donc je lui ai fait croire que j'allais faire les papiers à la mairie, et puis on avait 10 francs à l'époque, ma sœur et moi, et puis on est parti. J'ai fugué, hein, donc je suis partie à l'aventure avec ma sœur à Paris. On a passé des nuits assez dangereuses dans Paris parce que c'était à Pigalle. Et donc on a dormi dans des squats, on a dormi dans des caves. On avait peur parce qu'il y avait quand même des gens très louches. Mais on a passé aussi des bons moments parce qu'il y avait le Sacré-Cœur, c'était le rendez-vous des jeunes, c'était la guitare. D'un moment, c'est devenu dangereux, donc on s'est fait contrôler par la police hein, parce qu'on était mineurs, et ils nous ont emmenés, donc ils ont appelé les parents et on avait un avis de recherche justement sur nous, quoi.
Quand tu dis aux flics qu'on t'a marié de force, comment ça réagit?
Ils connaissaient déjà cette façon de vivre de certains maghrébins. Et ça les a pas choqués. La seule chose, c'est que ils m'ont ramené devant le consulat du Maroc à Nanterre pour annuler le mariage, parce que déjà avant ça, il y avait quand même des violences qui ont été faites physiques sur moi, donc par rapport à cet homme-là qui avait pas de papier. Et tentative aussi de viol, hein, parce que on n'a rien sans rien. Donc c'est assez violent quand on n'a que 17 ans. Mais j'ai l'impression de...
Ensuite, la sœur de Mina disparaît et se drogue. À l'époque, la drogue fait des ravages dans les années 80. Et Mina retrouvera sa sœur 10 ans après. J'ai choisi comme troisième extrait la montée du racisme, l'événement fondateur avec la marche des beurs. Et Bouchra, 16 ans, se sent pour la première fois submergée par l'humiliation. L'immigration devient problème. Et avec la montée du racisme, il y a aussi la montée des idéologies intégristes. Donc je vous laisse écouter.
Une génération qui va devoir aussi affronter l'émergence d'un racisme violent dans la société. À Bobigny, à Marseille, partout en France, des faits divers tragiques font la une de l'actualité. Je me rappelle surtout la douleur d'une mère qui aurait pu être la mienne.
Ils m'ont tué mon fils pour rien. Ils ont tué un jeune de 17 ans qui n'a jamais rien fait. Mes enfants, ils n'ont jamais rien fait. Mon fils a servi pour la France. Ça nous a rien coûté. Pourquoi ils ont fait ça? Parce que nous sommes des Arabes. Parce qu'ils l'ont vu que c'est un Arabe. Il est jeune, il n'a que 17 ans. Il n'a rien fait dans sa vie. Ils nous ont tués. Ils m'ont brisé le cœur. Ils m'ont tué.
C'est pour que cette folie cesse que les jeunes de ma génération ont marché, soulevant un immense espoir. C'était en 1983. On avait juste un rêve, nourri depuis l'enfance, l'égalité.
Qu'est-ce que vous croyez? Qu'est-ce que vous attendez?
Un monde meilleur pour nous, si c'est possible. On ne demande pas la lune, on demande de vivre, c'est tout.
Avec cette marche, rebaptisée la marche des beurs, on voulait dire à la société française que nous, les enfants issus de l'immigration, nous n'étions pas là en transit. Et on voulait dire à nos familles que nous, leurs enfants nés en France, nous ne repartirions jamais au bled. Notre pays, c'était la France. Au moment de la marche, j'ai 16 ans, la tête pleine de rêves et d'espoir. Et j'ai enfin l'âge de demander la nationalité française.
Allez-y, caméra, gros plan.
Come on, please. I am here in France because I have...
Tu vas te ridiculiser, ma vieille. Et ça, ça ne s'efface pas.
Je suis persuadée, comme mes frères et sœurs, que c'est un moyen d'intégration, comme la réussite scolaire. Mais à ma grande stupéfaction, mes parents refusent. Pour eux, je dois rester marocaine. J'entame alors à contre-cœur des démarches pour obtenir une carte de séjour. À la préfecture de Bobigny, dès le premier contact avec l'agent de police, je me sens traitée avec mépris. Et puis ça continue avec la fonctionnaire qui me reçoit derrière le guichet. De nouveau un mépris et un racisme à peine dissimulés. Pour la première fois de ma vie, je suis submergée par un sentiment difficile à supporter. L'humiliation. Dans la société française s'est installée l'idée que l'immigration est un problème, que les enfants issus de l'immigration sont incapables de s'intégrer. Le raz-de-marée du Front National aux législatives de 1986 balaye mes rêves d'égalité, mes espoirs d'adolescente. Face au mépris, je ressens le besoin d'afficher avec fierté mon identité arabe et musulmane. Je suis la première fille voilée de Bobigny. J'ai 17 ans. Mon voile, c'est aussi un cri de colère adressé à mes parents. Pourquoi avoir fait le choix de venir en France après l'indépendance de leur pays? Avaient-ils seulement mesuré les conséquences pour nous, leurs enfants, de naître et de grandir ici? Adolescente, cette colère immense qui m'habite est nourrie par le discours des intégristes. Il me conforte dans l'idée que la France ne nous acceptera jamais. Mais ils accusent aussi nos parents d'être trop conciliants avec ce pays qui les a colonisés et d'être de mauvais musulmans. Mais je suis très vite mal à l'aise. Je réalise que ce voile que je porte m'associe à ces hommes, à une idéologie intégriste à laquelle je n'adhère pas. Il y a une contradiction entre ce que j'affiche et ce que je suis au fond de moi.
Donc dans cet extrait, puisque on vient de parler de l'intégrisme religieux, je vous laisse écouter à nouveau un extrait de Bouchra Azouz lors de l'université d'automne qui vous parle justement de la question du religieux.
Où les courants conservateurs et rétrogrades sont en marche. Je pense que toutes les intervenantes ici ont pu le dire, où on remet en question l'avortement, où on remet en question le statut des femmes dans la société, etc. etc. Et si on ne donne pas force, dans ce temps où les populismes sont en train de l'emporter, on sait que le populisme, c'est l'ennemi juré de la femme, parce qu'on revient à une position ou un modèle traditionnel de la femme. Et ça, c'est déjà des choses que nous, on observe dans les quartiers populaires, où des courants religieux sont tellement puissants qu'ils se sont substitués avec l'aide des politiques dans les quartiers populaires, ils se sont substitués à tous les mouvements des hip-hop, qui, quand même, nous ont structuré ma génération, malgré les difficultés qu'on a eues, mais quand même, un pur produit de l'éducation populaire, et c'est peut-être ce qui m'a sauvé à un moment donné, pour m'engager un peu et comprendre ce qu'est le féminisme et pourquoi il faut à la fois composer, et c'est ça où je dis, j'ai pensé aussi pour Alain Debouche, qui est pour moi mon modèle féminin, avoir le féministe face à tous ces mouvements masculinistes, rétrogrades et conservateurs, elle a un rendez-vous aujourd'hui, et ce rendez-vous, il ne faut pas le manquer à mon sens. Et c'est d'autant plus difficile que le combat féministe doit être en permanence en cohérence, en cohérence avec ce socle de valeurs qui font nation, qu'on fait commun, qu'on fait ensemble. Et je crois que une des questions fondamentales qu'on doit réussir à lever, c'est la question de la place du religieux et notamment de l'islam. Je pense que ça, il faut arrêter de tourner autour du pot et de se mentir. Je le dis avec d'autant plus de détachement que je suis une féministe des quartiers pop, mais j'ai aussi ma culture arabo-musulmane et je n'entends pas du tout la gommée de ma personnalité, de ce que je suis. Mais il y a là un sujet et une problématique. Et avec Laurence, on avait organisé, quand j'étais au ministère en charge justement de ce féminisme populaire, on a monté une concertation nationale et donc on a mobilisé plus de 250 associations, 300 associations dans toute la France, à qui on a partagé un questionnaire en fait pour vraiment avoir une analyse au plus près de la réalité, pas simplement de ce que nous percevons de l'endroit où nous sommes. Et partout où je vais, soit à Limoges, à Angers, à Roumans, à Angoulême, je vais dans toute la France avec mes films, et vraiment cette question-là est une question majeure. Et le masculinisme, moi, auquel je dois faire face, il est un masculinisme islamiste. Je veux dire, j'ai pas peur des mots, c'est une réalité. Et donc, on doit être en cohérence, et je crois qu'aujourd'hui, on n'a pas encore résolu ce problème de comment on appréhende la question religieuse. Je regardais un tweet avant de venir que Laurence a partagé de Bélien Ruiz, Henri Bélien Ruiz. Effectivement, si on doit s'attaquer aux idéologies, il ne s'agit pas de s'attaquer aux gens qui sont eux-mêmes victimes de ces idéologies. Donc, comment on fait la part des choses? Et je crois que c'est aujourd'hui, en fait, cette incohérence qui fait qu'il y a une fracture pas dans les mouvements féministes, mais en tous les cas dans ce courant féministe racisé qui commence à s'imposer et qui emporte quand même une adhésion assez massive des jeunes. Pourquoi ? Parce qu'il va croiser à la fois la question des discriminations que les gens subissent et qui est une réalité, en même temps faire replier là-dessus la question de la liberté religieuse, un autre sujet, on voit bien que se cumulent comme ça des problématiques qui sont des problématiques réelles mais qui sont in fine traitées de manière totalement incohérente. Et on voit bien comment les politiques ont totalement imposé, et je pense que c'est sous l'effet de cette incohérence, qu'aujourd'hui il y a une réelle défiance à la fois à la société, aux politiques, mais aux féministes. Donc on a un rendez-vous.
Alors, comme avant-dernier extrait du documentaire, on nous appelait Beurette. J'ai choisi l'événement fondateur de la marche des femmes des quartiers pour l'égalité et contre les ghettos. Donc, événement fondateur de la lutte de ces femmes pour que le mariage des filles passe de 15 ans à 18 ans en France. Et pour lutter contre les mariages forcés, cette lutte devient un combat politique. Donc, c'est vraiment un événement extraordinaire, fondateur de la lutte féministe dans les quartiers et pour la lutte féministe de toutes les femmes.
Dans chaque famille, dans chaque cité, il y a des histoires comme les nôtres, des histoires de conquête de liberté menées dans l'ombre. Des luttes silencieuses qui ont donné à la génération suivante le courage de prendre la parole.
Je pense qu'on a obtenu une certaine victoire en quelque sorte. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, maintenant, les hommes et les femmes parlent, y compris les femmes qui avaient vraiment besoin d'expliquer ce qu'elles pouvaient vivre au quotidien, et commencer à s'organiser. S'organiser, ne plus se sentir seule, ne plus se sentir écartée. Et c'est vrai que ça a redonné beaucoup d'espoir, cette marche. Beaucoup.
En 2002, près de 20 ans après la marche des beurs, le débat sur la condition des filles dans les quartiers s'impose, enfin.
Libérer la parole, c'était le premier but du mouvement Ni pute ni soumise.
Respect, égalité pour les femmes du monde entier. Respect, égalité pour les femmes du monde entier. Respect, égalité pour les femmes du monde entier.
Grâce à cette marche, la loi permettra de relever l'âge légal du mariage des filles de 15 à 18 ans. Et la lutte contre les mariages forcés deviendra un combat politique. Nos petites sœurs seront les premières à profiter de nos conquêtes. Nous avons été pour elles des modèles et des soutiens indéfectibles. Ma sœur Salima, comme ses amies, sont la relève, les audacieuses.
Eh bien, je vais faire un petit discours là, j'ai 18 ans.
Allez, allez, allez.
Ma sœur vaccinée, oui, moi je t'entends.
Le soir, maintenant, j'ai le droit de sortir.
Qu'est-ce qu'elle a à dire? Celui qui va aller faire la bouffée, le soir, il vient me bouffer, il va tous et une de moi.
Allez,
elle
réussit,
sinon, ils ont bien
ça,
il va aller faire un
Alors, je voudrais compléter et revenir sur cet événement très important de la marche des femmes des quartiers pour l'égalité contre les ghettos. Du 1er février au 8 mars 2003, elle est née, c'est une marche mixte. Les 6 marcheuses permanentes sont au départ Safia Lebdi, Loubna Méliane, Olivier Bassuet, Christelle Raspolini, Ingrid Renaudin et Farid Belmouloud. Les marcheuses multiplieront les réunions, rencontres et discussions sur les oppressions, le sexisme, les violences morales et physiques. C'est la naissance de Ni pute ni soumise, qui est un mouvement féministe français, fondé donc en 2003 par Fadela Amara, et qui est né donc à la suite de ces marches organisées contre les violences des quartiers. Dans son action, le collectif Ni pute ni soumise met notamment 2 cas en évidence. Le premier cas est celui de Samira Bellil, marraine du mouvement, qui dans son livre « Dans l'enfer des tournantes » raconte sa vie en tant que fille soumise à la loi des cités, violée collectivement à plusieurs reprises, la première fois à l'âge de 13 ans. Effrayée à l'idée de dénoncer ses tortionnaires, elle a dû accepter d'être considérée comme un objet sexuel, aliénée et évitée par sa famille et certains de ses amis. Le deuxième cas est celui d'une jeune fille de 17 ans, Sohan Benziane, brûlée vive à Vitry-sur-Seine par Jamal Derrar, un rival de son ex-petite amie, âgée de 19 ans. Ces 2 cas extrêmes et spectaculaires servent de symbole aux membres de Ni pute ni soumise lors de leur marche à travers la France, à partir du 1er février 2003, qui les porte dans 23 villes pour aboutir à une manifestation à Paris le 8 mars 2003, rassemblant 30 000 personnes. Et je voudrais encore revenir sur le fait que c'est seulement en 2005, notamment grâce à cette marche, que l'âge minimum légal pour autoriser le mariage des jeunes femmes en France est passé de 15 ans à 18 ans. Et en 2005, enfin, cela a pu changer avec aussi la reconnaissance du viol conjugal. Donc cette différence d'âge pour le mariage aura quand même perduré pendant 200 ans en France depuis le Code civil de 1804. Donc, je voudrais vous reparler de Sohan Benziane, donc cette jeune fille de 17 ans brûlée vive à Vitry-sur-Seine, et de sa rencontre avec Annie Sugier, la cofondatrice de la Ligue du droit international des femmes qu'elle avait cofondée avec Simone de Beauvoir. Donc je vais vous lire un écrit de Annie Sugier qui raconte en fait la rencontre qu'elle a faite avec la sœur de Sohan Benziane, Kaina Benziane. Par-delà la mort. Le 4 octobre 2002, en fin d'après-midi à Vitry-sur-Seine, en région parisienne, au pied d'une tour de la cité Balzac, dans un sordide local à poubelle, se produit l'insupportable. Sohan Benziane, une jeune fille de 17 ans, après avoir été aspergée d'essence par un garçon de la cité menaçant de l'enflammer avec un briquet, est soudain transformée en torche vivante et vient s'effondrer sur la pelouse qui borde la cité. Elle mourra 2 heures plus tard. C'est une punition délibérée et non pas un dépit amoureux. Sohan aura payé de sa vie son refus de se soumettre au diktat d'un petit caïd de banlieue qui lui refusait le droit de circuler librement sur son territoire simplement parce qu'il avait eu un différend avec le petit ami de Sohan. Ce drame deviendra le symbole des violences extrêmes dont sont victimes aujourd'hui les jeunes filles des cités. En avril 2003, en hommage à Sohan, c'est de Vitry que partira la marche des jeunes femmes de l'association Ni pute ni soumise. Plus de 20 ans se sont écoulés depuis la mort de Simone de Beauvoir, pourtant elle occupe encore à ce point nos pensées que de façon inattendue dans ce drame elle apparaîtra comme un recours. Tout commence quelques jours après la mort de Sohan. La France est sous le choc. Le silence des politiques est total. Ce sont les amis de Sohan, celles qui l'ont vu mourir, qui organisent avec le soutien de la mairie de Vitry une marche silencieuse. Au milieu de la foule, les sœurs de Sohan, Kaïna et Waïba, portent le portrait de leur sœur. Elles sont pétrifiées par le chagrin. Mais ce jour-là, Kaïna se révèle, prend le micro, crie sa colère et sa révolte. Elle deviendra pour les médias au cours des mois et des années qui vont précéder le moment du procès, l'image même de la sœur courage, comme dans les tragédies antiques, celle qui refuse l'oubli. C'est elle qui fera appel à la Ligue du droit international des femmes. C'est elle qui me parle, pour la première fois, de cette plaque déposée par la mairie en souvenir de Sohan à l'endroit où elle est morte avec la mention « Pour que les garçons et les filles vivent ensemble dans le respect et l'égalité ». C'est bien, mais ils ont oublié de rappeler que pour en arriver là, il aura fallu qu'une jeune fille soit brûlée vive. La plaque étant régulièrement saccagée, Kaïna me demande d'en faire fabriquer une nouvelle incassable et avec la mention « morte brûlée vive ». Cependant, lorsque je demande à la mairie de pouvoir déposer cette plaque au pied de la cité Balzac, je me heurte à un refus. La crainte de traumatiser les habitants du quartier est trop forte. Le dépôt de cette plaque devient un combat. Il n'est pas question de passer sous silence les conditions de la mort de Sohan. Quand il s'agit d'un résistant qui a été fusillé dans une rue de Paris, la plaque commémorative mentionne bien les circonstances de sa mort. Pourquoi, lorsqu'il s'agit des femmes, voudrait-on nous faire croire qu'il ne s'agit que d'un fait divers? Sohan n'est-elle pas une résistante d'aujourd'hui? À la veille du premier anniversaire de la mort de Sohan, que faire de cette plaque pour obtenir gain de cause? C'est alors que j'ai pensé à Simone de Beauvoir, au cimetière Montparnasse et à cette tombe blanche toute simple. Par-delà le temps, les générations, les cultures, les catégories sociales, ce serait le plus fort des symboles. La rencontre entre celle qui a pensé la libération des femmes et une toute jeune fille qui a osé croire qu'elle était libre et qui en est mort. Avec l'accord de Sylvie Lebon de Beauvoir, les sœurs de Sohan vont déposer la plaque en souvenir de Sohan sur la tombe de l'auteur du deuxième sexe. La plaque restera pendant plusieurs mois sur la tombe de Simone de Beauvoir avant d'être déplacée pour être déposée dans différents lieux au cours de manifestations menées afin d'obtenir qu'un lieu porte le nom de Sohan. Elle devient ainsi pendant près de 3 ans la plaque errante. Et il fallut attendre l'année 2005 pour qu'elle soit enfin placée à Vitry sur une plateforme qui porte le nom de Sohan. La même année, dans le 15e arrondissement de Paris, un centre d'animation a été baptisé du nom de Sohan, où a été également déposée une plaque en souvenir du combat de cette jeune fille d'aujourd'hui. Encore une fois, la notoriété de Simone de Beauvoir nous aura aidés. Au cours du procès, l'histoire de la plaque errante viendra en appui de la cause de Sohan et la Ligue obtiendra que pour la première fois en France, l'acte de torture et de barbarie dont elle a été la victime soit reconnu comme un crime sexiste. Mais ce n'est pas encore la fin du chemin et nous aurons échoué s'il n'y a pas de relève parmi les jeunes femmes d'aujourd'hui. Voilà pourquoi j'ai demandé à Kaïmna, la sœur de Sohan, d'écrire à la suite de mon analyse son propre témoignage. Elle s'est révélée féministe dans une génération qui croyait le problème résolu. Dans le texte qui suit, Kaïna répond à ma question. Que sais-tu de Simone de Beauvoir? Voici son texte. Moi aussi, je l'ai rencontrée. Pour être tout à fait honnête, je ne connais pas grand-chose de Simone de Beauvoir, ou simplement le peu de choses que nos pauvres manuels scolaires ont bien voulu dire. C'est donc à la suite de l'assassinat de ma sœur et par l'intermédiaire d'Annie Sugier que d'une certaine façon j'ai aussi rencontré Simone de Beauvoir, comme Annie a pu rencontrer ma sœur à travers moi. Annie, le soutien tant attendu, est également devenue une formatrice et un exemple à suivre. J'ai compris les raisons du combat des femmes et son historique. Le sens du mot féminisme, je l'ai saisi à travers les nombreuses actions que des militantes ont menées. Ce mot, trop souvent utilisé à tort et à travers, employé comme une insulte, galvaudé par certains, ignoré par d'autres, j'ai appris à le respecter. Comme bon nombre de jeunes et moins jeunes, j'ignorais quasiment tout de la condition de femme et je n'arrivais pas à avoir une vision globale de la violence érigée contre elle. Alors que les violences faites aux femmes se manifestent de plusieurs façons et qu'elles touchent toutes les femmes, toute origine sociale confondue, toute appartenance religieuse ou non, qu'elles soient noires ou blanches, pauvres ou riches. L'oppression des femmes ne fait pas de discrimination, même s'il est beaucoup plus facile de vivre, il faut bien l'avouer, dans un pays démocratique, laïque et d'appartenir à une catégorie sociale et économique élevée. J'ai donc compris qu'il y avait plusieurs façons de militer. Que le véritable courage, lorsqu'il vous arrive une atrocité, ce n'est pas de continuer à vivre, mais de faire en sorte que cela change. J'ai également compris que pour se faire entendre, il faut privilégier le dialogue et repérer inlassablement les situations intolérables pour les dénoncer et protéger nos droits. Faire de la pédagogie une action. Enfin, militer est avant tout un acte de non-violence et l'on ne doit pas être aveuglé par la haine et la vengeance dévastatrice. Il faut aider toutes celles et ceux qui se battent et qui sont en difficulté. Pour conclure, le féminisme, c'est avant tout non pas prendre le pouvoir comme bon nombre de personnes le pensent, c'est-à-dire imposer une supériorité des femmes sur les hommes, mais tout simplement sortir, une bonne fois pour toutes, de cette domination infernale que la société, que les hommes, que les héritages culturels religieux font peser encore sur beaucoup trop de femmes. Malheureusement, la route est longue, et en lisant Le deuxième sexe, j'ai eu la désagréable impression de lire un état de lieu de la situation actuelle des femmes. À mon grand regret, son analyse me donne la sensation qu'elle est intemporelle. Pire encore, aux difficultés déjà identifiées par Simone de Beauvoir, s'en ajoutent de nouvelles. En effet, si en France être une femme libre est rentré dans les mœurs, le système et certaines personnes nous font payer cette liberté. Combien de jeunes mères sont délaissées par le père ? Combien d'entre nous souffrent du célibat qui offre tous les avantages aux hommes ? Combien de femmes souffrent du manque de fermeté de la part de la justice ? Combien de femmes souffrent du chômage et dans le cas où elles ont un travail, combien d'entre elles, encore trop nombreuses, sont accusées de prendre la place d'un homme ? Sans parler de celles, si peu nombreuses, qui occupent des postes à responsabilité. La tâche est ardue, mais l'héritage laissé par toutes ces femmes, qui pour certaines ont payé de leur personne et parfois de leur vie, ce combat pour la liberté et l'égalité, est d'une valeur inestimable, car il tend à nous garantir la paix entre les hommes et les femmes. Annie Sugier, de la Ligue internationale des droits des femmes, et Kaïma Benzian. Donc après cette magnifique rencontre et transmission féministe par-delà le temps, les générations, les cultures et les catégories sociales, je vous laisse écouter la fin du documentaire On nous appelait Beurette.
Presque 50 ans de vie à la Cité de l'Amitié et 3 générations se succèdent dans le salon de ma mère. Aujourd'hui, je me demande quel héritage léguer à nos enfants et à ma fille en particulier, ma petite Sakina. Toi qui es française, d'origine tchèque et marocaine, tu te poseras peut-être comme moi à ton âge et comme beaucoup de jeunes de ta génération, la question de ton identité. Ta grand-mère qui a connu la colonisation a choisi de devenir française à plus de 60 ans. En la regardant peindre ce tableau de la République, je sais qu'une page est tournée. Alors, n'écoute pas ceux qui te diront que nous sommes restés décolonisés, que la société française n'a pas changé et qu'il faut se replier sur nos identités religieuses ou raciales.
Tu vis dans un pays plein de promesses. Il faut que tu en sois fière. Mina, Wardia, Dalila et moi, nous te léguons nos conquêtes pour que tu portes à ton tour encore plus haut, encore plus loin, notre farouche désir de liberté.
Nous qui sommes un passé, les femmes, nous qui n'avons pas d'histoire. Nous qui sommes un passé, les femmes, nous qui n'avons pas d'histoire.
Los que non temos pasado, mujeres.